VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du vendredi 6 janvier 2023. Les autorités tchadiennes disent avoir déjoué une tentative de coup de force. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 annonce se retirer d'une position stratégique. Au Bénin, la campagne pour les élections législatives de dimanche s'achève aujourd'hui à minuit.
Ces élections seront inclusives. Elles vont marquer l'entrée au Parlement d'au moins 24 femmes sur les 109 députés prévus.
Dans la partie magazine, nous retrouverons le reportage de Ginette Fleur à Dandé. Le Kremlin annonce une trêve en Ukraine pour le Noël orthodoxe rejeté par Kiev. Ici aux États-Unis, Kevin McCarthy ne convainc toujours pas les républicains américains. Aucun accord sur le speaker de la Chambre des représentants. Le président américain Joe Biden a présenté hier sa nouvelle politique d'immigration. Ne manquez pas dans notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Les forces de sécurité tchadiennes annoncent avoir déjoué un putsch. Cette opération était conduite par Baradine Berdei Taguio, président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme, annonce N'Djamena dans un communiqué. Les détails avec Michel Joseph.
Le gouvernement tchadien a affirmé jeudi, je cite, avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Ce plan aurait été élaboré, selon le gouvernement, par un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée, avec à sa tête le nommé Baradine Berdei Taguio, président de l'OTDH, l'Organisation tchadienne des droits humains, a assuré N'Djamena, précisant que les services de sécurité avaient procédé à leur interpellation à partir du 8 décembre 2022. Monsieur Berdei Taguio est un militant connu des droits de l'homme au Tchad et l'OTDH a été créé en 2006. Il était régulièrement l'auteur de critiques à l'égard du chef de l'État et du régime sur les réseaux sociaux. D'après l'agence Reuters, Baradine Berdei Taguio serait actuellement incarcéré.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont promis cette semaine de se retirer d'une position stratégique, alors même qu'ils ont conquis des territoires ailleurs, jetant la confusion sur l'orientation future d'un conflit qui dure depuis un an. Les précisions avec Rosine Monizero.
Soumis à une forte pression internationale pour cesser les combats, les rebelles du M23 ont livré le 23 décembre la ville stratégique de Kibumba à une force militaire régionale, qualifiant cette action de geste de bonne volonté au nom de la paix. Mercredi, le M23 s'est aussi engagé à remettre jeudi la base militaire de Lumangabo à la force militaire de la Communauté d'Afrique de l'Est qui s'est déployée à la fin de l'année. Mais la cérémonie de transfert n'a pas eu lieu et aura probablement lieu ce vendredi, selon le major kényan Wanyoni Nyakundi, porte-parole de la force régionale. Au nord-est de Goma, le M23 a aussi capturé récemment plusieurs villages ainsi que la ville de Nyamilima, près de la frontière ougandaise. La résurgence du M23 a détérioré les relations entre la RDC et le Rwanda, que Kinshasa accuse de soutenir les rebelles. Kigali nie cette allégation et accuse le gouvernement congolais de collusion avec les FDLR, des rebelles Hutus rwandais.
Les autorités sénégalaises ont interdit jeudi une manifestation prévue ce vendredi à Dakar par l'opposition pour dénoncer des irrégularités dans la gestion d'un fonds anti-Covid relevé dans un rapport de la Cour des comptes. La Cour a pointé des manquements, des surfacturations, des absences de justificatifs, des dépenses dont certaines, en outre, ne sont pas liées au Covid. Le gouvernement sénégalais s'est défendu en soulignant que les manquements relatés portent sur moins d'1% du montant total du fonds et a promis de suivre les recommandations de la Cour des comptes qui a demandé l'ouverture d'informations judiciaires contre des responsables dans des ministères. Une marche prévue par des organisations de la société civile bissau-guinéenne contre la destruction d'un parc au cœur de la capitale a été empêchée par un important dispositif policier déployé jeudi. Les opposants au projet de parc s'insurgent contre la décision des autorités d'enterrer le lac Mbatoa pour y construire un complexe comprenant un hôpital, des résidences pour des médecins, un lycée et une mosquée. L'affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine, aujourd'hui et demain, à l'occasion du Noël orthodoxe, après une demande en ce sens du patriarche Kirill. Claire Morin-Gibou nous en dit plus.
Compte tenu de l'appel de sa sainteté, le patriarche Kirill, je charge le ministre russe de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de minuit le 6 janvier et jusqu'à 24 heures le 7 janvier, indique Monsieur Poutine dans un communiqué du Kremlin. Le président russe a en outre appelé les forces ukrainiennes à respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes d'assister aux offices la veille de Noël ainsi que le jour de la Nativité du Christ. Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak a aussitôt rejeté cet appel, disant que c'est un geste de propagande complet et rien de plus. Pour sa part, le président américain Joe Biden a déclaré que Vladimir Poutine était prêt le 25 décembre et le jour de l'an à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises, et donc qu'il cherche seulement à trouver un répit pour son effort de guerre.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a terminé sa journée hier sans parvenir à élire son nouveau président. Le favori Kevin McCarthy n'est toujours pas parvenu à accéder au perchoir après une troisième journée de tractation et 11 tours d'une élection qui paraît toujours sans issue. Le point avec Nani Talani.
La chambre basse du Congrès est restée complètement paralysée par les dissensions dans les rangs républicains. Kevin McCarthy a tendu la main à la vingtaine d'élus trumpistes qui jouent les troubles faits, leur offrant des concessions de taille lors de négociations en coulisses. En vain, les débats reprennent aujourd'hui à la mi-journée. La Chambre continuera à voter jusqu'à ce qu'un président soit élu. Le président démocrate Joe Biden a qualifié mercredi cette situation d'embarrassante, assurant que le reste du monde suivait de près la pagaille au Congrès. Son parti fait bloc autour de la candidature du chef Hakeem Jeffries, mais l'élu ne dispose pas non plus d'assez de voix pour accéder au perchoir. J'ai l'espoir aujourd'hui que les républicains arrêteront les chamailleries, la médisance et les coups de poignard dans le dos afin que nous puissions travailler au service du peuple américain, a-t-il appelé lors d'une conférence de presse jeudi. Être face à une chambre hostile mais désordonnée pourrait se révéler être une aubaine politique pour Joe Biden s'il confirme son intention de se représenter en 2024, décision qu'il doit annoncer en ce début d'année.
Le président Joe Biden a demandé hier aux migrants sans papier de ne pas s'approcher de la frontière américaine tout en ouvrant la porte à un nombre limité d'arrivées légales en provenance de 4 pays pauvres dans un exercice d'équilibre délicat sur l'immigration, une des questions politiques les plus explosives du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Qualifiant le système d'immigration américain de défaillant, Joe Biden a annoncé qu'il se rend dimanche à El Paso, au Texas, à la frontière sud, à la veille d'un sommet des dirigeants nord-américains à Mexico, où la sécurité des frontières sera une question essentielle. Dans le cadre de son nouveau plan, M. Biden a indiqué qu'une règle controversée appelée Title 42, titre 42, serait étendue pour permettre aux gardes frontières de refuser immédiatement un plus grand nombre de candidats à l'immigration arrivant par voie terrestre. Cette mesure a été prise par l'administration de Donald Trump pendant la pandémie et va probablement provoquer un tollé au sein de son propre camp démocrate. Pour apaiser les critiques de la gauche, Joe Biden a aussi déclaré que jusqu'à 30 000 migrants remplissant les conditions requises seront autorisés à entrer aux États-Unis chaque mois depuis Cuba, Haïti, le Nicaragua et le Venezuela. Mais ils devront faire une demande dans leur pays d'origine, avoir un parrain américain et se soumettre à une vérification de leurs antécédents.
Et c'est finalement dimanche que le président Biden arrivera au Mexique, un jour plus tôt que prévu, pour une visite officielle et un sommet nord-américain, a annoncé le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. Joe Biden doit se réunir lundi avec son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador et participer mardi à un sommet avec ce dernier et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président américain catholique pratiquant s'est rendu jeudi à la représentation diplomatique du Saint-Siège ici à Washington pour signer un registre de condoléances en hommage à l'ex-pape Benoît XVI. Benoît XVI était un brillant penseur et véritablement un saint homme. Je chérirai toujours le temps passé avec lui à discuter de théologie au Vatican. Quand il était pape, c'était un grand théologien. J'ai beaucoup appris en quelques heures, a-t-il écrit selon la Maison-Blanche. Les funérailles de l'ex-pape décédé samedi à 95 ans ont eu lieu hier sur la place Saint-Pierre à Rome. Et puis, les forces de sécurité mexicaines ont capturé jeudi l'un des fils du célèbre baron de la drogue emprisonné aux États-Unis, Joaquim El Chapo Guzman, lors d'une opération menée dans le nord du pays où il a été suivi d'intenses échanges de coups de feu entre forces de sécurité et hommes armés. Ovidio Guzman a été arrêté à Culiacán, capitale de l'État de Sinaloa. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Sénégal va investir plus de 806 millions de dollars sur 3 ans pour le programme d'investissement prioritaire du plan Sénégal émergent. Le PIP sera mis en œuvre dans la région de Tambacounda, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures et l'agriculture. Ce plan a déjà permis la création de l'allocation familiale aux plus démunis et la couverture maladie universelle, entre autres mesures. Vincent Bolloré, qui conteste son inculpation pour corruption au Togo, a obtenu un renvoi de l'audience devant la Cour d'appel de Paris, faisant valoir que l'avocat général Serge Makoviak aurait eu des liens anciens avec l'association Anticor, qui s'est portée partie civile dans l'information judiciaire visant M. Bolloré. Le groupe est soupçonné d'avoir utilisé les activités de conseil politique d'une filiale pour décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée au bénéfice d'une autre filiale. Les Émirats arabes unis ont arrêté au Soudan avec l'aide d'Interpol le trafiquant d'êtres humains le plus recherché au monde. Kidian Zekarias Abdemariam est à la tête d'un réseau ayant kidnappé des milliers de migrants d'Afrique de l'Est voulant se rendre en Europe. Arrêté en Éthiopie en 2020, cet Érythréen s'était échappé et vient d'être arrêté par des policiers soudanais et émiratis.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
À 7 jours du coup d'envoi du CHAN, le Maroc pas toujours sûr d'y prendre part.
La cause, sa voisine algérienne hôte du tournoi, qui a coupé les vols directs en provenance du royaume chérifien à cause des relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Selon le site AfriqueFoot, le double tenant du titre menace de boycotter la compétition si les Lions de l'Atlas locaux ne peuvent pas rejoindre directement leur base de Chan à Constantine. Des rumeurs allant dans le sens du boycott ont circulé, mais le compte Maghrib Foot indique que les autorités marocaines n'ont pas encore pris leur décision. La Fédération royale marocaine de football s'est directement adressée à la CAF pour décanter la situation.
Athlétisme, le chemin du Kenya contre le dopage sera long.
C'est ce qu'a affirmé le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coué, lors d'une conférence de presse à Nairobi avec le ministre kenyan des Sports, Ababu Namwamba. Le Kenya a pris des engagements contre le dopage après avoir échappé l'année dernière à une exclusion par la Fédération internationale d'athlétisme. Mais plusieurs dizaines de ses coureurs ont été suspendus après avoir été contrôlés positifs à des produits dopants en 2022. Les autorités kenyanes ont promis de dépasser 25 millions de dollars sur 5 ans pour financer la lutte contre le dopage, avec un recrutement d'agents supplémentaires, une augmentation du nombre de tests et un renforcement des programmes d'éducation et de sensibilisation des sportifs.
Ici aux États-Unis, Damar Hamlin va mieux.
Le joueur des Buffalo Bills a fait montre d'une amélioration remarquable de son état de santé après son arrêt cardiaque dû à un choc subi lundi pendant un match du championnat américain de football. Selon les médecins qui s'occupent de Damar Hamlin au centre médical de l'Université de Cincinnati, bien qu'il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu'il semble être intact sur le plan neurologique. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants, a déclaré l'équipe CIS dans l'état de New York. Lundi, Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Bengals à Cincinnati. Le président Joe Biden dit s'être longuement entretenu avec son père et sa mère.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Bénin, les premières élections inclusives organisées depuis 2016 auront lieu le dimanche et verront entrer au Parlement 109 députés qui vont siéger pendant 3 ans. Alors que la campagne électorale est dans sa dernière ligne droite, les 7 partis politiques en lice rivalisent d'ardeur sur le terrain pour convaincre les populations. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Dernière ligne droite pour les partis politiques qui ont démarré depuis quelques jours la campagne pour les législatives du 8 janvier prochain. Outre le fait que ces élections seront inclusives, elles vont marquer l'entrée au Parlement d'au moins 24 femmes sur les 109 députés prévus. Pour le parti UP Le Renouveau, dirigé par l'ancien président de la Cour constitutionnelle, les électeurs ne devraient pas se tromper de cible. Joseph Tchogbenou est le président du parti.
S'il y a des décisions difficiles pour faire en sorte que la jeune fille adolescente reste à l'école et ne soit pas déviée, nous allons prendre cette décision. S'il y a des décisions difficiles pour qu'il y ait plus de centres de formation, pour qu'il y ait plus d'université de qualité, pour qu'il y ait plus de médecins qui soient engagés à rester dans les hôpitaux, on va prendre ces décisions politiques, on va les renforcer. C'est pour cela que le 8 janvier 2023, vous allez faire dire à vos jeunes de choisir le parti politique qui a le courage nécessaire pour prendre les décisions dont toutes profitent à la jeunesse.
Contrairement à la campagne électorale de 2019, marquée par des actes de violence, celle-ci se fait dans une ambiance chaleureuse. L'ancien président de la République, Yahi Boni, s'est d'ailleurs invité dans la danse, appelant les Béninois à voter pour le parti Les Démocrates de Rekia Madougou.
Le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, les institutions indépendantes, le partage du pouvoir. Eh bien, c'est cette gouvernance qui doit mettre fin à l'expropriation du patrimoine national. Le conflit d'intérêts au sommet de l'État. Alors, si c'est la rupture de la rupture, je suis preneur, donc je suis démocrate.
L'implication de l'ancien président dans la campagne est mal vue par le parti Bloc Républicain qui dénonce une tentative malsaine de Yahi Boni à broyer les cartes et induit le peuple en erreur. Rachidi Badamassi, candidat sur la liste du parti Bloc Républicain.
Il s'agit d'une élection législative. Je vois mal. Ceux qui ne sont pas concernés par ces élections viennent troubler l'ordre public. Alors, nous demandons humblement à nos militantes et aux militantes de ne pas céder à la provocation. Nous nous voulons la paix. Et je pense qu'il urge qu'on laisse les candidats concernés venir nous apporter. Le renfort ne va pas renverser la tendance.
De son côté, Bani Léon Biobikou dénonce la force de l'argent et appelle les populations à sanctionner ceux qui viennent leur offrir de l'argent ou des sacs de riz contre la promesse de leur vote.
Il a dit que ce sont les populations mêmes qui doivent retenir, choisir ceux qui doivent les diriger du point de vue politique. Et on va mettre comme critère fondamental l'argent. Est-ce que c'est tous ceux qui ont de l'argent, les moyens, qui du point de vue moral, du point de vue éthique, qui sont les seuls qui vont pouvoir contribuer à la gestion harmonieuse, administrative, apaisée d'une nation.
Le Cotonou, c'est notre lieu à donner pour VOA Afrique.
Au Togo voisin, le gouvernement annonce une intensification de la lutte contre le commerce illicite de carburant. Les autorités évoquent la menace que fait peser le phénomène, non seulement sur la santé des populations, mais également sur l'économie et la sécurité nationale. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
C'est le ministre de la Sécurité, le général Yark Damram, qui est monté au créneau pour annoncer la fin de la récréation. Le bilan des accidents et des drames liés au commerce illicite du carburant a motivé sa décision.
Pour l'année 2022, il y a eu au moins 23 morts. Des compatriotes qui ont péri dans des véhicules chargés de carburant. Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de chance. Ça. 20 blessés, il y a au moins 4 habitations calcinées. Ce n'est pas le bon commerce. Pas le bon commerce, parce que les conséquences sont plus dangereuses que ce que vous pensez tirer comme profit.
Dans les villages de la préfecture de Vaud, à quelques centaines de kilomètres de la capitale Lomé, l'annonce du ministre fait grincer les dents. Le jeune Mess en vie, qui fait le commerce du produit incriminé, fait fi des menaces des autorités. Dans les localités comme la nôtre, il faut parcourir des dizaines de kilomètres avant de trouver une station d'essence. Comment feront les motocyclistes pour alimenter leur engin? Et puis, c'est un business qui nourrit nos familles et aide les motocyclistes. Nous demandons au ministre de revoir sa décision. Le plus souvent, les forces de l'ordre se lancent dans des courses-poursuites en voiture ou à moto pour arrêter les contrebandiers, ce qui cause parfois des accidents et des morts. Kobla, un revendeur d'essence de contrebande, parle de duplicité de la part de la police. Nous ne comprenons plus rien dans cette affaire. Les policiers et les gendarmes exigent de l'argent pour nous laisser faire nos activités et on le leur donne. Après, ce sont d'autres qui reviennent nous donner la chasse. On est confus, on ne comprend plus rien. Le président de la Ligue des consommateurs du Togo parle de mauvaise foi du ministre de la Sécurité dans sa volonté de mettre fin au trafic. Emmanuel Sogadji.
Vous comprenez avec nous que les produits qui quittent le Nigeria, qui viennent au Bénin, du Bénin au Togo, ça a passé par les frontières. Je crois que c'est quelque chose de la mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre la contrebande nourrit ceux qui luttent contre cette contrebande-là. Et ça nourrit aussi la corruption et c'est déplorable en ce sens.
Le ministre de la Sécurité reste droit dans ses bottes et n'entend pas transiger sur le sujet.
Au début, on saisit le produit, on vous laisse avec votre engin. Nous sommes passés à une vitesse supérieure, on saisit l'engin. Mais les gens continuent. Il n'est pas exclu qu'il y ait des peines de prison.
Il faut ajouter que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile y voit dans ce trafic un créneau pour le financement du terrorisme dont souffre le Togo depuis l'année dernière. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
En République centrafricaine, forte augmentation des prix des hydrocarbures. Un arrêté du gouvernement a presque doublé le prix du litre d'essence, du gasoil et du pétrole à la pompe. Dans le pays, c'est l'exaspération. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête de nombreux centrafricains. Le litre du super passe de 865 francs à 1300 francs CFA, soit une augmentation de 435 francs. Le gasoil s'envole de 855 francs à 1450 francs CFA et le pétrole de 650 francs à 1150 francs CFA. Ces prix sont entrés en vigueur depuis ce mercredi 4 janvier dans les stations-service. Arthur Bertrand Piri, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, précise les raisons de cette augmentation.
Je note deux points. Premièrement, la fiscalité pétrolière, c'est-à-dire les recettes mobilisées sur la vente des hydrocarbures varient entre 1,8 milliard et 2 milliards, voire 2,5 milliards par mois. Depuis le déclenchement de cette crise, l'État ne mobilise plus ces recettes-là. Deuxièmement, l'État continue à subventionner les prix à la pompe. Sur un litre de super, l'État débourse près de 500 francs. Sur un litre de pétrole lampant que vous achetez, l'État débourse un peu plus de 600 francs. Sur un litre de gasoil, l'État débourse un peu plus de 500 francs. Donc il y a deux problèmes. L'État ne perçoit plus les recettes sur la vente du carburant, mais c'est l'État par contre qui subventionne.
La décision du gouvernement est prise en concertation avec les syndicats des transporteurs. Wilfried Ngissimali, un des responsables.
Avec toutes les démonstrations que le ministère de l'Énergie nous a fait, nous avons trouvé mieux que ça soit régularisé, que ce prix-là soit vraiment augmenté et que le carburant se vende seulement à la pompe. Que de vendre ça à l'informel pour nous causer encore des dégâts, des incendies, des pertes de maisons et même des vies humaines.
Si le gouvernement et les syndicats des transporteurs ne voient pas une solution raisons autres que l'augmentation des prix à la pompe. Les conducteurs de taxis, bus et mototaxis, voire les particuliers s'en plaignent.
En République centrafricaine, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Le mieux, c'est d'augmenter un peu. Si c'est à 1000 francs, ça va, mais à 1300, vraiment, je suis très désolé.
C'est un constat amer. Vu la situation de notre pays, la flambée des prix des denrées alimentaires, de plus, le prix du carburant, et ça fait pas bien.
L'augmentation du carburant est décourageante déjà.
Par rapport à ce prix-là, les taxis motos vont vraiment augmenter leur prix.
Première conséquence de cette augmentation, des tensions entre clients et conducteurs de taxis, bus et mototaxis sur les tarifs des trajets. Selon Wilfried Nguissimali du syndicat des transporteurs, une réunion se tiendra prochainement pour déterminer de nouveaux tarifs. Pour sa part, l'association des consommateurs pense qu'il s'agit d'une décision brusque et non inclusive qui aura des impacts à tous les niveaux. Pour les autorités, cette nouvelle disposition devra soulager les marketeurs et permettre de mettre fin au marché noir du carburant. Freeman Sipila, Bongui, pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Des dizaines de milliers d'innovateurs technologiques, leurs admirateurs affluent à Las Vegas cette semaine pour le CES, le salon annuel de l'électronique pour le grand public. Dina Michel a repéré quelques tendances prometteuses. Le récit avec Claire Morin-Gibou.
Des chiens robots qui font des tours par commande vocale. Un engin motorisé à enfiler une chaussure pour aller plus vite. Des appareils promettant le confort, non pas dans l'univers, mais dans le métaverse. Ce ne sont là que quelques-unes des innovations présentées au Salon de l'électronique cette année.
Walk and say hi.
Marche et dis bonjour. Oh là là. Ok, va à gauche. Dis bonjour à la caméra et regarde autour. Maintenant, reviens.
Ce petit chien n'est qu'un moyen de démontrer les capacités d'une technologie activée par la voix. Marc Bagour travaille pour Erudite.
Nous avons construit une technologie vocale qui vous permet de contrôler n'importe quelle machine, n'importe quel robot, n'importe quel drone ou ordinateur dans le monde, juste en utilisant votre voix.
Plus de 140 pays sont représentés au Salon de l'électronique cette année, qui est le premier CES au complet depuis la pandémie. 100 000 visiteurs sont attendus. Près de la moitié des 3 200 exposants sont venus de l'extérieur des États-Unis, dont certains d'Ukraine. L'organisateur de l'événement a interdit les exposants russes. Gary Shapiro est le président de l'association qui organise le CES.
Nous n'autorisons pas les exposants russes à ce salon en raison de la situation en Ukraine.
Le retour en personne est important, dit Shapiro. Malgré la dépendance du monde à la technologie, la pandémie a prouvé que les humains ont besoin d'interactions personnelles. Cette année, le salon a pour thème la durabilité.
Une grande partie de ce que vous voyez, ce sont des entreprises qui répondent aux besoins de la société et qui disent « Voici ce que nous pouvons faire pour améliorer la société. Le droit à l'alimentation, le droit à l'air pur et à une eau propre. Ce sont des choses que la technologie peut améliorer. »
Claire Peng, de la société taïwanaise Ible, a déclaré que les oreillettes anti-bruit de son entreprise utilisent des ions négatifs pour combattre les virus et les polluants atmosphériques comme le pollen.
Il peut protéger les utilisateurs à la fois des polluants atmosphériques et des bruits ambiants.
Les fans du métaverse ne seront pas déçus. Malgré les licenciements dans le secteur de la technologie l'année dernière, les gadgets de réalité virtuelle sont bien présents. La société Shiftall, basée à Tokyo, vise à rendre la réalité virtuelle plus confortable grâce à un casque léger. Son Mute Talk, un microphone Bluetooth insonorisé, permet aux utilisateurs d'être bruyants dans le métaverse tout en respectant ceux du monde réel. Takuma Iwasa est le PDG de Shiftall.
La légèreté est très efficace pour les gros utilisateurs car ils passent des tonnes de leur temps dans les métavers.
Le directeur de recherche, Steve Conning, a rappelé aux visiteurs les innovations précédentes. Des smartphones à l'Internet à haut débit il y a plus de 10 ans. Cette fois-ci, il s'agira de la robotique pour rendre le travail plus efficace, de la réalité virtuelle sur le lieu de travail et des véhicules automatisés comme les tracteurs qui s'occupent des terres agricoles sans conducteur à bord. Le CES 2023 promet de nouvelles technologies qui vont changer la vie.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph, technique Kelvin Fowler. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.